conférence. Parce que Dieu s'est révélé. Nous ne sommes pas le fruit d'une religion qui a rapidement conçu une théologie, un système. Nous avons de l'espérance et nous avons une confiance en un Dieu vivant parce qu'il s'est révélé à l'humanité. C'est des choses élémentaires que je dis là, mais c'est fondamental. On oublie parfois ces choses-là. Vous allez me dire, ça n'a rien à voir avec ce que je vous montre là. En fait, je voulais vous poser cette question ce matin. Je ne sais pas, ça vous est peut-être arrivé, peut-être ce matin même, de venir au culte, et quand vous avez tourné la clé de votre voiture, vous avez un petit voyant orange qui s'allume, qui vous dit que vous êtes sur la réserve de votre carburant. Bien sûr, il vous reste à peu près 5 litres, vous faites presque 100 km avec, mais à condition que la jauge est stable. Est-ce que ça vous est arrivé, ça, d'être sur la réserve, mais sans vous en rendre compte vraiment? Et vous ressentez quoi? Quel a été votre sentiment?
Panique.
Pourquoi la panique? Une certaine angoisse, n'est-ce pas? Se dire, le trajet que j'ai à faire, là c'est urgent, j'ai pas trop le temps de passer à la station, est-ce que je vais aller jusqu'au bout? Vous allez comprendre pourquoi je vous ai poser cette question. Moi, ça m'est arrivé une fois et j'étais vraiment pas sûr de rentrer à la maison. Et il n'y avait pas spécialement de station sur le chemin en plus. La pizza pète est insalubre. Voilà. Alors, ça, c'est déjà fait. Bonjour à tous. Il y a trois événements majeurs que je voulais vous partager, vous rappeler ce matin. Commencer cette prédication en priant tout à l'heure avec vous. Évidemment, j'aurais pu en rajouter un quatrième. Je vous laisse soit deviner quel serait le quatrième, mais vous verrez que ces trois événements ont un point commun. Le quatrième, on a un aussi, mais d'une autre façon. Et comme on en parle souvent du quatrième, j'ai mis l'accent sur ces trois-là parce que c'est bien aussi qu'on parle de tout. Nous est révélé dans cette révélation merveilleuse de notre Seigneur dans la Bible. Alors, trois événements majeurs dans l'histoire biblique. Le premier événement majeur qui est absolument incontestable, même s'il y en a qui vont vous dire c'est des légendes, nous ne croyons pas que ce soit des légendes, c'est quand il y a eu la fin des travaux du tabernacle vers 1445 avant Jésus-Christ. Vous voyez, même les historiens, ils ont mis une date, un peu comme la naissance de Jésus, qui a une date. C'est sur Internet, vous voyez des trucs qui nous annoncent, des personnages qui n'ont pas vraiment existé, etc. Non, c'est historique, c'est la date en face. La fin des travaux du tabernacle. Je lisais l'Exode il n'y a pas longtemps, c'est juste à la fin du livre de l'Exode, si vous cherchez les versets, parce que ce qui était formidable à cette époque, c'est qu'on a fait appel aux offrandes, alors ça fait penser un peu au chantier ici, on a fait appel aux offrandes des enfants de Dieu et du peuple d'Israël, et ils ont amené des offrandes. Et à un moment donné, on leur a dit stop! Non, j'étais petit, la croix est pleine. Il y en avait trop. Il y avait trop d'offrandes. Enfin, c'est une anecdote, mais qui montre combien Dieu permet des grandes choses. Alors, dans l'Exode 40, versets 34 et 35, il nous est dit, alors, une fois que les travaux ont été terminés, la nuée couvrit la tente de la rencontre. C'est une belle expression pour parler de ce tabernacle. Tabernacle, c'est un mot un peu rude, comme ça, à première vue, la tente de la rencontre. J'aime bien cette expression. Parce que c'est là qu'on voit tout le plan de Dieu à travers la tente de la rencontre. Ce désir de Dieu de vous rencontrer. Ce désir de vivre quelque chose avec vous. ce désir d'être dans votre vie, pas simplement un Dieu lointain. Alors la nuée couvrit la tente de la rencontre et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. Moïse ne pouvait pas entrer dans la tente de la rencontre parce que la nuée restait dessus et que la gloire de l'Éternel remplissait le tabernacle. Imaginez la scène. Vous avez construit quelque chose, imaginez ce local. Et par entrée, la gloire de l'Éternel, c'est aveuglant. Je ne peux pas supporter. Et puis le deuxième événement, c'était l'inauguration du temple de Jérusalem, qui est situé vers 959 avant Jésus-Christ. Et dans le premier livre des Rois, au chapitre 8, versets 10 à 11, il dit, au moment où les prêtres sortirent du lieu saint, vous savez qu'il y avait un lieu saint et un lieu très saint, mais même en sortant du lieu saint, la nuée remplit la maison de l'Éternel, les prêtres ne purent pas y reprendre leur service à cause de la nuée. La gloire de l'Éternel remplissait en effet la maison de l'Éternel. À quoi servirait-il de construire un tabernacle pour qu'il reste vide? Même s'il y a des hommes, même s'il y a des prêtres, ça servirait à quoi? À quoi servirait-il de construire un temple de pierre aussi majestueusement imaginé et construit si ce temple est vide? J'aurais envie de dire à quoi servirait-il que nous restions vides en tant qu'êtres humains, n'est-ce pas? Et puis il y a un troisième événement majeur, c'est évidemment la Pentecôte, qui est située vers 30 après Jésus-Christ, cette fois, beaucoup plus près de nous. Et dans Actes 2, c'est un passage que vous connaissez bien, et versets 1 à 4, quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble au même endroit. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent, littéralement un souffle violent qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues qui semblaient de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et elles se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. L'Éternel est un Dieu qui remplit. C'est peut-être une chose à laquelle on ne pense pas tout le temps. Et ce matin, je veux vraiment mettre l'accent là-dessus. L'Éternel est un Dieu qui remplit. C'est un Dieu qui comble. C'est un Dieu qui assouvit le Dieu que vous connaissez et que je connais. C'est un Dieu qui abreuve. C'est un Dieu qui inonde. C'est un Dieu qui satisfait pleinement. C'est un Dieu qui est entier, voire exclusif. L'Écriture nous parle même de jalousie, mais au sens de l'amoureux qui est jaloux quand lui pique sa fiancée, n'est-ce pas? C'est par amour qu'il est jaloux, au sens divin du terme, pas au sens bassement humain. C'est un Dieu qui n'aime pas les demi-mesures, froid ou bouillant, mais pas tiède. Avec moi ou contre moi, il n'y a pas de demi-mesure avec lui. C'est un Dieu entier, c'est un Dieu qui n'aime pas à moitié. Ce matin, on a parlé de son amour, et je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais des fois, quand vous êtes dans une situation un petit peu difficile, vous avez le vague à l'âme, vous êtes un peu troublé intérieurement, vous ne voyez pas votre vie avancer, vous vous dites, est-ce que Dieu ne m'aurait pas oublié quelque part? Mais si Dieu nous aime, si Dieu m'aime, il nous aime à 100%, il ne nous aime pas à moitié, il nous aime entièrement. C'est un Dieu qui ne sauve pas en partie seulement. Il ne vous a pas sauvé un petit bout et puis il va vous sauver un petit peu plus la prochaine fois. Le salut a été accompli une fois pour toutes. Et quand on est sauvé pleinement. Et vous avez encore des chrétiens aujourd'hui qui vous font croire que vous pouvez perdre votre salut. Ça existe, j'en ai rencontré. Pas ici, hein. Heureusement. Mais Dieu sauve parfaitement. On sait pourquoi, parce qu'une fois qu'il nous a sauvés, ce n'est pas simplement qu'on est sauvé, mais on est intégré à sa personne, à la personne de son Fils. Un Dieu qui appelle à purifier nos cœurs partagés. Je pense qu'il souffre de voir parfois notre cœur partagé, de voir que nous sommes entre deux chaises, de voir que nous ne sommes pas remplis. Nous sommes frustrés, Nous sommes insatisfaits. Nous ne sommes pas assouvis, nous ne sommes pas comblés. Ça nous est arrivé, ce genre de sentiment. De commencer une journée ou de la finir en vous disant « Quelle journée pourrie !» J'ai l'impression que j'étais à des milliards d'années-lumière de Dieu. Je n'ai même pas pensé à lui une seule fois. C'est un Dieu qui ne se contente pas des restes, des miettes. C'est un Dieu qui ne peut pas être relégué au placard. Si Dieu remplit, quand il a rempli le temple, quand il a rempli le tabernacle, il a rempli tout le tabernacle. Il a rempli tout le temple. C'est dire que quand il a rempli, les premiers chrétiens, au moment de la Pentecôte, il ne les a pas remplis à moitié. Il les a remplis à 100%. Mais c'est un Dieu qui remplit. Parfois, Dieu est dans nos vies un petit peu comme un ami. On lui fait une chambre d'amis. Une petite chambre d'amis. Mais il n'a pas accès aux autres pièces. Il ne remplit pas. Ah, il remplit la chambre d'amis, mais il ne remplit pas la maison. Dieu veut remplir la maison. Toutes les pièces de la maison. Jusqu'au grenier, jusqu'à la cave. Et même remplir le jardin. Dieu remplit tout. Dieu est un Dieu qui remplit. Un Dieu qui se plaît à remplir. J'ai bien aimé ce premier verset du chapitre 6, que vous connaissez bien, du prophète Ésaïe, où même le bord de son vêtement remplit le temple. C'est un détail qui nous paraît secondaire, parce que le vêtement, bon, il y a sûrement tout un symbole derrière, mais on parle de la plénitude de Dieu, là, que Dieu remplit. Mais même là, l'année de la mort du roi Ozias, j'ai vu le Seigneur assis sur un trône très élevé, le bord inférieur de son vêtement remplissait le temple. Rien que son vêtement remplissait le temple. Quand votre vêtement remplit quelque chose, évidemment la personne qui est dedans, a fortiori, elle remplit le temple aussi. Des séraphins criaient l'un à l'autre, « Saint, Saint, Saint et l'Éternel, le Maître de l'univers, sa gloire remplit la terre. » Sa gloire remplit la terre. Une terre pourtant qui est bien imparfaite. Et ça pourrait nous amener la question de se dire, mais nous qui sommes imparfaits, comment pourrions-nous être remplis d'un Dieu saint? Peut-être qu'on a des doutes à ce sujet. Se dire, non, Dieu ne peut pas remplir un être comme moi. Sauf qu'on oublie que nous avons été lavés. Nous avons été sanctifiés par le sang de l'agneau. Nous avons été purifiés une fois pour toutes. Colossiens 1:9. Paul dit, nous deux, sous l'inspiration de l'esprit, hein, faut toujours se rappeler quand même, que tout ce que l'on lit là, c'est la révélation de Dieu. C'est pas simplement des propos de Paul. Hein. Nous demandons que vous soyez remplis, vous les chrétiens de Colosse et tous les autres, de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. Remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. Romains 15, verset 13. Que le Dieu de l'espérance, tiens, j'ai déjà entendu ce mot-là ce matin, il semble, vous remplisse de toute joie. Ah, la joie. C'est génial, non, la joie. Vous aimez la joie? Vous savez, vous avez une source de joie inépuisable. Eh bien, que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie, de toute paix dans la foi. Ah, la paix. Ah, combien de fois il manque la paix, hein? Vous êtes troublé par des trucs. Alors, il y a des choses que vous pouvez nommer, il y a des choses que vous ne pouvez pas nommer. Vous êtes dans un combat spirituel. Vous êtes dans une situation où vous n'êtes pas en paix, vous ne savez pas pourquoi, ça vous est arrivé ça. Le Dieu de l'espérance peut vous remplir de toute joie et de toute paix dans la foi pour que vous débordiez d'espérance. Pas simplement que vous ayez l'espérance, que vous débordiez d'espérance par la puissance du Saint-Esprit. Dieu veut que ça déborde. Alors la question, est-ce le cas? Est-ce le cas dans ma vie? Est-ce que ça déborde? Que si Dieu remplit, ça n'est pas pour aller juste au sommet du vase, vous savez, puis on arrête juste le robinet pour pas que ça coule sur les côtés. Non, c'est tout le contraire. Si Dieu nous remplit, il a une raison de nous remplir, c'est pour que ça déborde. Combien de fois on n'a pas ce sentiment que ça déborde, n'est-ce pas? Jean 7, versets 38 et 39, Jésus a dit, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de lui. Comme l'a dit l'Écriture, il dit cela à propos de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Et Pierre nous le rappelle que la promesse du Saint-Esprit, elle est pour vous qui croyez et pour tous ceux en aussi grand nombre que le Seigneur les appellera. Il n'y a pas d'exclusion. Alors, quelle est la réalité de notre vie? Est-ce que c'est des fleuves? Peut-être des ruisseaux? Peut-être un goutte à goutte? Parfois, nous sommes des chrétiens qui vivons au goutte à goutte. On met une perfusion avec Dieu, n'est-ce pas? Et puis, on se contente d'un goutte à goutte. Dieu veut remplir. Il ne veut pas se contenter d'un goutte à goutte. Alors, ça se traduit de 36 000 bannières. Nous avons commandé les calendriers pour la nouvelle année. On aime bien prendre un verset chaque jour. Mais si Dieu veut nous remplir de toute sa connaissance et de la connaissance de sa volonté, est-ce suffisant? Dieu veut plus, Dieu veut nous remplir de sa connaissance. Ça veut dire qu'il veut qu'on se plonge dans l'Écriture. Ça veut dire qu'il veut qu'on travaille l'Écriture, qu'on recherche dans l'Écriture sa volonté, sa révélation. Alors, parfois on a besoin d'un goutte à goutte, c'est pratique, comme on a besoin d'une barre de céréales quand on part en randonnée, parce que des fois on a un petit coup de pompe vers les 11h, et ça nous donne un petit coup de boost, mais si on ne fait pas de bon repas dans la journée, la randonnée, on ne pourra jamais la finir. On ne pourra pas se contenter d'un goutte à goutte. On a besoin d'être rempli, même au sens stomacal. On a besoin d'être rempli, d'être nourri. Romains 5, 4, ça a été rappelé par Jean-Claude tout à l'heure, mais on ne s'est pas consulté du tout. Hein. L'amour de Dieu, alors il y a eu une petite erreur de traduction dans sa version. L'amour de Dieu est répandu. Moi dans ma Bible, c'est comme ça. J'ai vérifié l'original. En grec, l'amour de Dieu a été, j'insiste là-dessus, a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Cette ressource est déjà en nous, en vous, si vous croyez en Christ, si vous avez mis votre confiance en Christ, si vous l'avez reçu dans votre vie, si l'Esprit est là, dans votre cœur, selon sa promesse, eh bien, cet amour a été répandu dans votre cœur. Et moi, je ne sais pas comment vous êtes, mais combien de fois je me dis, mais pour, je n'aime pas comme il faut. Quand je vois tous les besoins des gens autour de moi, quand j'entends tout ce qui se passe dans le monde, quand on voit les familles et tout ça, même l'Église, qu'est-ce que j'aime mal? Sans doute parce que je ne puisse pas assez dans ce trésor, insoupçonné peut-être, de l'amour de Dieu qui nous a été répandu. Dieu ne fait pas les choses à moitié, Dieu nous remplit. Quand il nous donne son amour, il remplit d'amour. Alors, on peut laisser au placard, mais on peut aussi puiser dedans. Un Dieu de plénitude qui veut la plénitude. Colossiens 2, 9, 10. Et vous remarquerez que ces deux versets, souvent, on les prend séparément. Et souvent, on prend le premier, on oublie le deuxième. Et j'aimerais que vous les reteniez tous les deux. Il est dit, en effet, c'est en lui, Christ, qu'habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Pas besoin de chercher ailleurs.
rendez compte, Christ était, avait toute la plénitude de la divinité dans son corps d'homme, de fils de l'homme, et conséquence, et vous voyez que là souvent on sépare les versets, on aime bien prendre des versets comme ça. Non, non, c'est pas comme ça que ça marche dans la révélation, il faut prendre tout. Hein. Vous avez tout pleinement en lui. Vous avez besoin de quelque chose? Vous avez besoin d'amour? Vous avez besoin de paix? Vous avez besoin de joie? Vous avez tout reçu en Christ? Vous avez tout pleinement en lui. Parce que Dieu, quand il vient dans votre vie, il vous remplit. Et son vœu, c'est de vous remplir continuellement. Je vais résumer aussi Éphésiens 3, 15 à 19, parce que ça serait un peu trop long de lire, mais en somme, il y a quelques idées qui nous est donné, et vous verrez le but de ce passage-là. Paul prie que, et ça montre bien que la prière, c'est important, il prie que nous soyons fortifiés par son esprit dans notre être intérieur. Alors ça, tous les jours, on a besoin. Hein. Que Christ habite dans vos cœurs par la foi, et non par les sentiments. Et combien de fois nous doutons parce que nous avons des sentiments fluctuants, parfois positifs, parfois négatifs, parfois on a un manque de magnésium, parfois on a un manque de soleil, parfois on a... Et nos sentiments, ils font ça. Et si je me fie aux sentiments, c'est pas du tout la foi, ça. Que Christ habite dans mon cœur, par la foi. Si vous l'avez reçu, s'il vous a rempli, il est toujours là. Que vous ne le sentiez pas, parce que lui, il est fidèle, même si nous sommes infidèles. Que nous soyons enracinés et fondés dans l'amour, évidemment, pour puiser, être enracinés, prendre la racine comme une plante. Hello. Lui, il n'est pas rempli. Hein. C'est peut-être la pile, Marcel. Et il prie aussi que nous comprenions et que nous connaissions l'amour de Christ. Ça, c'est tout un programme. Parce que c'est quelque chose d'éternel. Hein. On n'aura jamais toute l'éternité suffisante pour connaître cet amour qui nous dépasse. Et le but de tout ça, c'est afin que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Dieu est un Dieu qui remplit. Dieu veut vous remplir. Éphésiens 1, 23, c'est une vision beaucoup plus globale. Jusqu'à maintenant, on parlait plutôt d'individus. Mais là, l'Église qui est son corps, Éphésiens 1, 23, l'Église qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tout. Je ne sais pas si on imagine la beauté de l'Église de Jésus-Christ, l'Église universelle de Jésus-Christ, qui représente la plénitude de celui qui remplit tout. Tous, Dieu veut nous remplir individuellement et collectivement. Après le tabernacle, après le temple, chose inimaginable, si on regarde ce qui s'est passé au tabernacle et au temple, vous avez remarqué que dans le tabernacle, personne ne pouvait rentrer. C'est impossible. Dans le temple, même chose, les prêtres, ils sont sortis, ils ne pouvaient pas continuer leur service. Parce que la présence de Dieu était là. Parce que la gloire de Dieu remplissait le temple. Et chose inimaginable, à la Pentecôte, ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Qui est Dieu, on est d'accord? Inimaginable, Jean 14, 23, si quelqu'un m'aime, dit Jésus à Jude, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Hein? Nous viendrons vers lui et nous établirons domicile chez lui. On sait que c'est par l'Esprit Saint qui le fait, parce que le Père est sur son trône, le Fils est à la droite du trône, il intercède pour nous, et il ne nous a pas laissé orphelins, il nous a envoyé l'Esprit Saint. Et cet Esprit Saint, s'il est en nous, il nous remplit et il veut nous remplir constamment. Si nous sommes évidemment d'accord avec ça. Et Paul a dit aux Corinthiens, qui étaient des chrétiens particulièrement charnels, on en a parlé pendant un an, enfin, pour ce qui nous concerne, une église charnelle, on aurait dit, mais non, Dieu ne va pas habiter ces cœurs-là. Eh bien, bien, Paul leur dit à ces chrétiens charnels de Corinthe, ne savez-vous pas que vous êtes, si vous en tenez compte ou pas, vous êtes le temple de Dieu, et que l'Esprit de Dieu habite en vous. Et c'est inimaginable, incroyable de penser que par l'Esprit Saint, en quelque sorte, c'est comme si toute la Trinité de Dieu était en nous. Parce que juste avant, il a dit, quand il parle du Père et de lui, Jésus, nous établirons domicile chez ce chrétien-là qui s'est converti à Christ. Et comment? Ils le font par l'Esprit. Dieu ne peut pas être éclaté en trois, il est un. Nous, ça nous dépasse, c'est incroyable, c'est inimaginable. Et c'est ce qui s'est passé à la Pentecôte. Non seulement avant la Pentecôte, Jésus est venu en chair et en os, mais à ce moment-là, l'Esprit n'était pas dedans. À la Pentecôte, l'Esprit devient habitant de notre corps, de notre être, notre esprit, pas seulement notre esprit. Ce qui est encore de plus incroyable, c'est que Paul précise dans 1 Corinthiens 6, 19, aux Corinthiens, à ces fameux Corinthiens charnels, qui faisaient parfois de leur corps un petit peu n'importe quoi, il leur dit, ne le savez-vous pas, votre corps est le temple du Saint-Esprit, qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu. Vous ne vous appartenez pas à vous-même. Donc le temple de Dieu n'est plus un bâtiment, ce n'est plus une tente, mais ça devient une intimité avec Dieu. Vous imaginez, enfin, je crois qu'on n'imagine pas, ça me dépasse, que par l'Esprit Saint, c'est Dieu qui habite en nous, et qu'il n'a plus besoin de tente, il n'a plus besoin de pierre. Si nous avons des locaux, c'est pour être au chaud, mais ce n'est pas le temple de Dieu, c'est nous le temple de Dieu. Si cette salle était vide, ce ne serait pas un temple. Et aucun édifice religieux n'est un temple s'il n'y a pas en son sein des âmes qui sont remplies de l'Esprit. Pensons à la Nouvelle Jérusalem. Ça, c'est le summum de cette intimité. Apocalypse 21:2, j'entendis une voix forte venant du ciel qui disait « Voici le tabernacle de Dieu parmi les hommes. » Ça, c'est le final, le grand final. Il habitera avec eux, ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Tu n'auras plus de temps, tu n'auras plus de pierre, pas besoin. Dieu sera avec nous, au milieu de nous. Si Dieu a investi notre corps et notre esprit, il est le maître des lieux, nous lui appartenons. Nous sommes intégrés au corps de Christ, l'Église universelle, et il veut nous remplir. Il donne son esprit sans mesure, sans compter. Le seul obstacle possible, c'est nous. En l'attristant, en l'éteignant, ou en nous opposant à lui, bref, en n'étant pas rempli de l'Esprit comme Dieu le demande. Et ça, c'est, je dirais, le plus grand défi de tout chrétien. C'est d'être rempli de l'Esprit. Ça devrait être notre souci principal. Et je dois bien le confesser que ce n'est pas toujours le cas, pour ce qui me concerne. La pénurie d'essence outre-Manche, vous en avez entendu parler cette semaine. Alors, sorry, out of use. Désolé, hors service. Hors d'usage. Il y a une pompe qui est quand même libre. Alors, on va pouvoir peut-être mettre un peu d'essence dans la voiture. En fait, c'est pas qu'il manquait d'essence, c'est qu'il manquait de chauffeur. Ils sont tous repartis en Europe, et en Europe, donc il y a un petit souci. C'est le même problème chez nous d'ailleurs, il ne faut pas rêver. Pouvons-nous toujours rouler sur la réserve? Je reviens à ma petite anecdote du début. Impensable, vous qui faites de la route tous les jours, hein, Julien, tu vas à une demi-heure de chez toi, t'imagines pas partir avec le petit voyant rouge allumé, au risque de tomber en panne en Fleurville, ou je ne sais pas où, risque de panne sèche. Si nous trouvions une station sur la route assez stupide pour ne mettre qu'un litre d'essence, puis attendre d'être à nouveau sur la réserve, puis mettre un autre litre, parce que vous savez, l'essence est chère. Hein. mais c'est de plus en plus cher, donc ça va baisser au printemps, on espère, mais pour l'instant, quand on fait le plein, on sent passer la douleur. Alors on pourrait s'amuser à mettre un litre, et puis faire des kilomètres, et ça s'allume, on refait, on remet un litre. Donc, ça serait un peu stupide, personne d'entre nous l'a fait, je pense. Il ne faudrait pas le plein d'être possible. Et bien, nous vivons souvent notre vie chrétienne de cette façon. À moitié vide ou complètement vide, sur la réserve minimale, on ne cherche pas la plénitude, on se contente du peu, on fait le minimum syndical, on pourrait dire, nos propres forces. Ça, c'est la réserve. Nos propres forces. Combien de fois nous vivons nos journées par nos propres forces, alors que nous pouvons faire le plein pour le jour, et le faire sûrement, dans certaines journées, heureusement. Mais Dieu veut nous remplir. Pour accomplir son œuvre, c'est indispensable. Et même les apôtres devaient rester à Jérusalem jusqu'à être revêtus de puissance. Jésus leur dit, restez à Jérusalem jusqu'à ce que vous receviez la puissance d'en haut. Et c'est à la Pentecôte que cette puissance est venue. Que non seulement cette puissance, mais Dieu en personne, en esprit, est venu les habiter, les remplir. Et nous sommes au bénéfice de cette promesse. Il veut nous remplir de son esprit, de sa joie, de sa paix, de la connaissance de sa volonté, que nous débordions d'espérance sur les autres. Est-ce que nous débordons? Est-ce que nous vivons sur la réserve? Débordons-nous ou vivons-nous sur la réserve? Je pense à un barrage électrique. Si ce barrage n'était pas plein, il ne pourrait rien produire. Aucune énergie électrique. Et même s'il n'était pas plein, l'eau ne déborderait pas et n'irait pas irriguer les terres qui sont à quelques kilomètres plus bas. Le sens d'un barrage, c'est qu'il soit rempli. Nos vies sont un peu comme ça. Nos vies chrétiennes, si nous ne sommes pas remplis de l'esprit, elles n'ont aucun sens. Nous sommes incapables de faire la volonté de Dieu sans l'aide de son esprit et sans sa plénitude. Et si nous ne débordons pas, il n'y aura pas beaucoup d'impact autour de nous, n'est-ce pas? C'est exactement pareil en informatique. Je ne suis pas un spécialiste. Mais quand vous téléchargez un logiciel, ou quand vous téléchargez une mise à jour, vous êtes bien obligé d'attendre les 100%. Sinon, eh bien, coucou! Vous n'aurez pas votre mise à jour et vous n'aurez pas votre logiciel. Ça me rappelle une jeune fille qui partait en vacances assez loin, et puis, qui s'est aperçu que son GPS n'était pas à jour. Alors, elle le branche le matin du départ. Hein. Et puis, elle ne s'était pas rendu compte qu'il fallait des heures pour mettre à jour, parce que maintenant, on a des cartes européennes. Avant, j'avais une carte française, ça se faisait en assez peu de temps. Maintenant, avec l'Europe, ça prend des heures. Alors, moi, je le branche carrément pendant la nuit, comme ça, le matin, je me lève, c'est à jour. Mais elle a vu ça, cette jeune fille, le matin pour partir en vacances. Espérant que ça se fasse vite, sauf que elle n'est jamais arrivée au 100%. Elle était stressée au possible et elle est partie avec un GPS qui finalement était vide. Parce que le système, il enlève l'ancienne version avant de mettre la nouvelle. Donc elle est revenue avec un Michelin. Voilà. Et puis c'est pareil, si nous ne sommes pas remplis de l'esprit, ça ne va pas. Dieu veut que nous soyons remplis parce que c'est un Dieu qui remplit. Avons-nous le choix d'être remplis? Ephésiens 5, 18, ne vous enivrez pas de vin, cela mène à la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Et vous rappelez qu'en acte 2, verset 13, certains moqueurs disaient, ah, ils sont pleins de vin. Je peux vous dire que quand vous êtes rempli de l'esprit, si un jour vous êtes mal compris d'autres chrétiens, ne soyez pas étonnés. Parce que certains se sont moqués aussi de voir des gens dans la foi parler des merveilles de Dieu et d'être tellement abreuvés de cette plénitude de l'esprit qu'ils passaient un peu pour des c'est une espèce d'ivresse spirituelle. C'était pas simplement une espèce de citation. Non, c'était vraiment authentique. C'est vraiment l'Esprit Saint qui leur fait parler des merveilles de Dieu. Vous avez souvent entendu parler d'un ivrogne, des merveilles de Dieu, n'est-ce pas, papa? Il parle de bien autre chose. Alors, est-ce que c'est un choix d'être rempli? Non. Dans le texte, c'est clair, c'est un impératif, mais qui est à notre portée, parce que Dieu ne nous donne pas d'impératif qui ne soit pas à notre portée. Et vous savez pourquoi? Parce que si on n'avait pas la possibilité d'être rempli de l'Esprit, tous ces commandements nous seraient impossibles. Aucun commandement ne serait possible. Ces commandements ne sont possibles que si nous sommes remplis de l'Esprit. Nous pouvons lui obéir agréablement, faire sa volonté et la connaître pleinement que si nous sommes remplis. Donc c'est à notre portée. Ce n'est pas la recherche d'une expérience extraordinaire, bien que ce soit extraordinaire et surnaturel quand on y réfléchit. C'est incroyable. Ce n'est pas un deuxième baptême, ce n'est pas une nouvelle Pentecôte. Mais c'est la plénitude de l'Esprit Saint. Ça, c'est le seul défi qu'un chrétien a sur la terre. C'est d'être constamment rempli de l'Esprit. C'est ça le plus important. Ce n'est pas la peine de chercher 36 000 choses. Tout découlera de ça, comme le barrage qui va déborder. Alors, dans le texte grec, c'est un temps qui n'est pas connu en français, on appelle ça le présent continu. On n'a pas ça chez nous. C'est comme si on disait être continuellement, soyez continuellement rempli ou soyez toujours en train d'être rempli. Alors voyez que ce n'est pas une expérience passée sur laquelle on s'appuie. On a parfois vécu des expériences fortes avec Dieu. C'était formidable, un moment fort, vraiment. C'est merveilleux. Puis le lendemain, ouf, on se retrouvait au fond du trou de la réalité, n'est-ce pas? C'est pas ça. Ce n'est pas non plus une expérience ponctuelle qu'on va avoir de temps en temps. Non, l'idée de Dieu, c'est de nous remplir continuellement. Alors, qu'en est-il aujourd'hui? C'est pas mon expérience d'hier. C'est où j'en suis ce matin. Est-ce que je suis rempli de l'Esprit? Est-ce que c'est mon souci? Soyez remplis est aussi à la voie passive. Ce n'est pas nous qui nous remplissons, comme quand on va à la station-service. Enfin, c'est pas nous remplir avec le robinet, mais s'il n'y avait rien dans la cuve, on ne mettrait pas grand-chose dans le réservoir. Mais à la voie passive, ça veut dire que ce n'est pas nous qui nous remplissons, mais c'est nous qui sommes remplis par l'Esprit. La condition de reconnaître notre vide et d'être disposé à le laisser nous remplir, conscient de notre dépendance de l'Esprit. Est-ce que c'est une situation que vous vivez dans votre vie personnelle de ressentir ce besoin d'être rempli, de voir qu'en fin de compte, humainement parlant, on est vide. Qu'est-ce que c'est désagréable de se sentir vide, de ne pas être dans cette plénitude. Ce n'est pas réservé à une élite de gens parfaits. Les apôtres étaient loin d'être parfaits. Regardez, entre avant la Pentecôte et après la Pentecôte, c'est le jour et la nuit. Avant, ils avaient peur. Avant, ils étaient prêts à renier leur maître. Ils abandonnaient leur maître. Après, ils vont finir martyrs. Ce n'est pas le but forcément, hein, mais il y a bien un changement radical parce qu'ils ont été donc ce n'est pas réservé à des gens parfaits. Parfois, certains pourraient vous le faire croire, mais ce n'est pas vrai. Ceux qui reconnaissent le besoin et qui veulent obéir à l'Esprit de Dieu et marcher sur l'Esprit. C'est quand Jésus ne veut pas que nous soyons en feu là, c'est vraiment dans un but précis, c'est d'accomplir sa volonté. Alors qu'est-ce que ça va changer d'être rempli de l'Esprit? Quelques exemples, mais on pourrait en rajouter peut-être, je ne sais combien. Nous comprendre les uns les autres et être unis. C'est l'unité de l'Esprit. D'ailleurs, il y a un petit mot qui revient toujours dans le lien de l'Église, petit verset, hein. Efforcez-vous de conserver l'unité de l'Esprit. Ce n'est pas l'unité de pensée, voilà, on pense tous pareil, on a une pensée unique, etc. Non, c'est l'unité de l'Esprit. efforcez-vous d'être constamment remplis pour être unis. C'est l'Esprit Saint qui réalise l'unité de l'Église universelle. Peu importe les étiquettes et tout ça, ça on s'en fiche. L'important, c'est de se dire, est-ce que la personne est sauvée? Est-ce que la personne est née de nouveau? Est-ce que la personne est remplie de l'Esprit? C'est ça, l'important. Alors, se comprendre les uns les autres, j'ai dit ça parce que figurez-vous qu'en dehors de tout ce qu'on peut dire sur le parler en langue qui se parle à la Pentecôte, les gens se sont compris. Ceux qui venaient d'ailleurs ont compris, grâce aux dons surnaturels des langues étrangères, terrestres, bien connues, ils se sont compris les uns les autres, ce qui n'aurait pas été possible autrement. Nous aimer les uns les autres, bien sûr, avec nos différences. Parler des merveilles de Dieu, et c'est ce qui s'est passé à la Pentecôte. Le dimanche matin, sommes-nous prêts à parler, pas simplement penser, parler des merveilles de Dieu. Confesser de la bouche des merveilles de Dieu. À la Pentecôte, on entendait les louanges. On entendait parler des merveilles de Dieu. Même s'il y avait des moqueurs qui disaient « Oh, ils sont pleins de vin doux », on les entendait de nos oreilles, les merveilles de Dieu. Voilà ce que la plénitude de l'Esprit aussi produit. Rien que pour le culte du dimanche matin, cette abondance, ce débordement de louanges, de joie, de reconnaissance. L'Esprit Saint peut nous aider si on se sent faible, si on se sent peureux de verbaliser les louanges, les merveilles de Dieu. N'ayez pas peur, puisez là où il faut. Laissez-vous remplir de l'Esprit de Dieu. Ne vous inquiétez pas des gens qui sont à côté de vous. Peut-être certains ne vont pas comprendre votre joie, votre enthousiasme, votre espérance qui déborde. Non, ce n'est pas un problème. Annoncer la parole de Dieu avec assurance, sans crainte. C'est un épisode biblique, ça. Hein, quand Pierre et Jean sont sortis de prison, ont retrouvé leurs amis, leur ont raconté, ils se sont tous mis en prière et ils ont dit, Seigneur, vois leur menace et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec assurance. Et qu'est-ce qui s'est passé tout de suite après? Et ils furent tous remplis d'esprit. Suite à cette prière sincère, suite à cette prière de confiance, dans le Seigneur. Donc, ça peut aider aussi à assurer, à annoncer la parole avec assurance, sans crainte. Voir des personnes convaincues de péché, de justice et de jugement. Ça, c'est pas très à la mode, mais combien, mes amis, nous avons besoin du Saint-Esprit pour que nos contemporains se rendent compte de leur péché, se rendent compte qu'ils ont besoin d'être sauvés, qu'ils ont besoin de l'amour de Dieu. Et nous, humainement, avec toutes nos belles techniques, les plus perfectionnés, nous ne pourrons pas convaincre les cœurs. Seul le Saint-Esprit est capable de convaincre les cœurs. Voir de nouvelles naissances spirituelles, il n'y a que le Saint-Esprit qui peut faire ça. De nouveaux dons et ministères, c'est le Saint-Esprit qui appelle au ministère. C'est le Saint-Esprit qui distribue les dons comme il l'entend, dans sa souveraineté divine. Glorifier Dieu et Christ sur la terre. Vivre en paix et voir l'Église s'édifier, marcher dans la crainte respectueuse du Seigneur et grandir en nombre, en qualité, en crédibilité. C'est ce qu'on voit dans le livre des Actes, quand l'Esprit est à l'œuvre, quand les chrétiens sont remplis. Ça change tout. Etc. Alors, en conclusion, parce que le temps passe, la seule question qui nous importe ce matin, et je ne voudrais pas en rajouter plus, que c'est la question primordiale, essentielle. Voulez-vous être rempli continuellement de l'Esprit Saint? Ça, c'est devant Dieu que vous pouvez répondre à cette question. Est-ce que c'est vraiment votre désir? Est-ce un besoin réel dans votre vie? Une recherche permanente, un véritable souci quotidien, une nécessité absolue? Quelque chose de très lointain qui ne vous préoccupe pas spécialement. Une véritable priorité, je dirais un préalable à tout ce qu'on fait, même les choses de ce monde, même faire du bon travail, du bon boulot. Vous ne pouvez pas imaginer comme l'Esprit Saint peut aider dans un travail, dans une préparation de message, dans une préparation d'orientation, dans l'école du dimanche, parce que nos petits-enfants, ils ont besoin d'être convaincus de péché aussi à un moment donné de leur vie, dans notre vie de couple, de famille, etc., etc. Ressentez-vous un vide, parfois, à combler? Ou est-ce que je vous parle un langage étrange ou suspect? Criez-vous vers le Seigneur sincèrement pour qu'il vous remplisse chaque jour. Oh Seigneur, j'ai tant besoin que tu me remplisses. Je ne peux rien faire de bien sans toi. Sans Christ, je ne peux rien faire. Sans être branché au ciel, sans être rempli de cet esprit, je ne peux pas faire de chose. L'Éternel est un Dieu qui remplit, il veut vous remplir. Et à vous d'accord. Ne vous attendez pas à un tremblement de terre, comme c'était le cas dans l'histoire que j'ai racontée tout à l'heure. Ni à une grande émotion, mais aspirez simplement à faire la volonté de votre Père Céleste. Donnez au Saint-Esprit toute la place qui lui revient dans votre cœur et dans l'Église. Père Céleste, combien nous ne pouvons que te confesser notre négligence. Trop souvent présente par rapport à ton Esprit Saint, cet Esprit Saint que tu nous as donné, Seigneur, dont la présence est quand même assez mystérieuse parfois, assez discrète. Et d'autres fois, on voit bien que ce qu'on a fait, ce qu'on a dit, ce qu'on a pensé n'était pas de nous, mais c'était de toi, afin que toute la gloire te revienne. Si c'est nous qui faisons, nous serons glorifiés. Si c'est ton esprit qui agit en nous, c'est toi qui seras glorifié. C'est Christ qui sera glorifié. Alors Seigneur, merci de révéler dans ta parole que tu es un Dieu qui remplit. Et que même actuellement, dans cette nouvelle alliance, en Christ Jésus, tu nous as envoyé l'esprit, tu ne nous as pas laissés orphelins. Tu veux que nous soyons continuellement. Que cela puisse être vraiment le cas, dès ce matin, dès demain, dès après-demain, et les jours qui suivront, que tu nous donnes vraiment ce désir de nous laisser remplir continuellement dans ton esprit. Seigneur, nous avons tant besoin de toi dans cette intimité. Tu as fait de nous le temple de Dieu, le temple de l'Esprit. Combien nous t'en remercions, parce que nous ne sommes pas dignes d'être habité par un Dieu saint. Nous qui sommes pécheurs, mais tu nous as lavé, tu nous as sanctifiés, tu nous as mis à part. Et tu lui as fait de nous ta demeure, Seigneur. Alors, effectivement, nous sommes d'accord d'être remplis continuellement, Seigneur. Parce que nous nous rendons compte que sans toi, nous pouvons rien faire d'efficace. Seigneur, bénis tes paroles, merci vraiment toutes ces paroles. Remplis-nous de la connaissance de ta volonté, remplis-nous de ta joie, de ta paix, fortifie notre être intérieur par ton Saint-Esprit jusqu'à toute l'éternité de vie. Dans le nom de Jésus, je te prie. Amen. 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 Amen.